Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Plongeons-nous dans l'ambiance des petits métiers dans laquelle nous avons plongé lors de la précédente émission. Je vais commencer par vous lire un petit texte de Jules Janin, un texte extrait des Catacombes. Le chapitre s'intitule « Les petits métiers ». Et il fut écrit en 1839 sous le règne de Louis-Philippe. Plus loin, sur le pont neuf, sur le quai de la Grève, hors des boutiques vagabondes ou stationnaires, sans patente mais non pas sans aveu, vous rencontrez une race d'industriels toujours occupés qui se croisent dans tous les sens et sans confusion. L'un, appuyé sur son échoppe d'un pied carré, sollicite pour un sou la faveur de rendre son lustre à votre chaussure délustrée. L'autre, d'une voix enrouée, appelle votre caniche, qu'il veut tondre à toute force. Le caniche épouvanté se presse contre son maître en aboyant. Celui-ci vend des allumettes, celle-là des épingles. Ce vieillard gagne sa vie avec le sucre d'orge. Voyez cette large commère ? Elle porte sur son ventre l'attirail complet d'une cuisine toujours fumante. Le fourneau est allumé, la graisse éclate dans la poêle à frire, la friture se dessine dans toutes les formes, l'air est embaumé à 10 pas à la ronde. La saucisse succulente, la pomme de terre dorée, la côtelette de porc frais appétissante friandise de la place de Grève. Que dis-je ? Le merlan délicat, la sole, le goujon, mais délectable d'une société plus choisie, appelle tour à tour l'appétit du passant. La boucherie est à côté de la cuisine, le poisson frais est suspendu sur les hanches de la cuisinière, destiné à remplacer le poisson frit. Il est 1 heure, le Parisien fait son second repas. Il a mangé une tasse de lait le matin. À 1 heure, il mangera pour 4 sous de pommes de terre ou d'autres fritures, enveloppées dans une feuille de papier imprimée. Louis-Sébastien Mercier, 1740-1814, et cet écrivain qui, entre 1781 et 1788, déambula dans Paris pour laisser un tableau du Paris populaire de la fin du XVIIIe siècle. Et en 1797, on peut lire dans Paris métamorphosé de Pierre-Jean-Baptiste Nougaret cette petite description du Pont-Neuf. Il est seulement fâcheux que cet engorgement ait lieu sur un pont déjà obstrué par les marchands qui bordent l'un et l'autre côté des trottoirs et vous assourdissent par leurs cris. L'espace réservé pour la circulation est si étroit qu'on ne s'y ouvre un passage qu'à force de donner et de recevoir des coups de coude. Je suis étonné que dans une ville aussi policée, des détaillants aient le droit de s'établir dans un lieu où ils occasionnent les plus grands embarras. Au XXe siècle, le Pont-Neuf a continué à inspirer. Et voici chanté par Brigitte Sabourot sur le Pont-Neuf.
Sur le Pont-Neuf, les nuits d'été, danse le spectre gracieux d'Arlequin. Il y vécut bien des années, sautillant la batte à la main. Sur ce pont neuf qui est si vieux, survit encore l'esprit de fantaisie, que ce monde calamiteux affadit petit à petit. Et le bon roi Henri sourit, un œil vers le passé. Passés soucieux et pressés, pauvres gens d'à présent, sous le regard nuancé du malin vert galant. Sur le pont neuf, les nuits d'été, passent des couples d'enfants amoureux. Dans leurs yeux, le ciel étoilé s'extasie, l'amour est un dieu. Petit jardin qui tend sa proue, aux pieds secrets de deux grands escaliers. Ton ombrage est intime et doux, aux amants les doigts enlacés. Et la Seine à tes pieds, au guet, poursuit sa vie au long des années, t'entourant de ses bras allongés, comme autour d'un amant trop tendrement aimé. Près du pont neuf, les nuits d'hiver, un petit feu parfois lance un éclair. C'est la vie de quelques clochards qui s'adosse à ses vieux remparts. Près du pont neuf, les avocats plaident des causes auxquelles ils ne croient pas. Mais Pierrot qui s'est fait pincer pour un morceau de pain volé se souvient de l'odeur des quais, l'odeur des quais.
Ils étaient nombreux, les petits métiers à Paris, et ils permettaient à beaucoup de vivre modestement, ainsi que l'écrit Emmanuel Bénézite dans Petites Industries. Dans la partie du vieux Paris qui s'étend entre la Seine et la montagne Sainte-Geneviève, existe quantité de maisons anciennes, respectées par la pioche des démolisseurs. Nombre de gagnes petits trouvent des logements compatibles avec leurs modestes ressources. Loyers variant entre 5 et 10 francs par mois. Je ne vous dirai pas qu'à ce prix, ils ont plusieurs chambres à coucher, salon, salle à manger, salle de bain, électricité, ascenseur. Ce serait de l'exagération. Mais, si modeste que soit leur mansarde, elle constitue un domicile. Et le marchand de Mouron peut réclamer sa carte d'électeur, ce à quoi il tient essentiellement. Elle est longue, la liste des petits métiers. Commençons par quelques-uns de ceux qui ne faisaient pas fortune. Du Mouron pour les petits oiseaux ! La hotte sur le dos, un panier au bras, un homme vêtu d'habits élimés, portant le plus souvent des chaussures hétéroclites, apporte la plante chère à nos petits amis les oiseaux. Quelques branches de mouron suspendues dans la cage de l'oiseau prisonnier lui paraîtront une exquise friandise. Fifi fera fête à sa maîtresse, lui apportant ce régal. Le marchand de mouron est donc bien vu. Son passage est impatiemment attendu par la petite ouvrière et par les personnes possédant des oiseaux. Le marchand de mouron, malgré son extérieur hirsute et ses vêtements délabrés, est généralement un brave type. La plupart du temps, un esprit exagéré d'indépendance ou quelques malheurs lui ont fait abandonner l'atelier. Mais il supporte philosophiquement ce que sa profession a d'aléatoire. Il a peu de frais, sa marchandise lui coûte la peine de la recueillir. Il vend le matin, commençant très tôt pour servir ses clientes avant leur départ pour l'atelier. Et après son déjeuner, il part faire sa cueillette. À l'occasion, le marchand de Mouron devient herboriste. Il va le long des cours d'eau cueillir les millepertuis, les menthes. C'est encore lui qui va dans les champs cueillir les cœurs de coquelicots, les bleuets, les digitales et quantité d'autres plantes que la pharmacie ou l'industrie utiliseront. Mais il existe aussi la version féminine de ce gagne-petit. Paris vient de s'éveiller. La laitière a à peine pris place sous l'auvent de la porte cochère. Une voix chevrotante s'élève à laquelle répond le serein gazouilleur de la portière. « Du mouron pour les petits oiseaux ! Qui veut du mouron pour les petits oiseaux ?» C'est un des derniers cris de Paris, un des plus doux, des plus harmonieux, de ces mille cris, de ces mille voix qui remplissaient les rues le matin, de ce concert de la petite industrie. Il ne reste plus que quelques virtuoses rares et clairsemées. Quand la marchande de mouron aura disparu, les autres ne tarderont pas à la suivre. Si on crée un décanat des petits métiers, c'est à la marchande de mouron qu'il faudrait le décerner. Elle représente une des plus vieilles industries de la capitale. Elle était déjà la providence des grisettes et des portières à l'époque du Moyen-Âge. Si la marchande de Mouron avait été ambitieuse, Saint-Louis lui eût donné des statuts et l'eût érigée en corporation. Mais elle était minée du privilège. Toutes les femmes sont égales devant le Mouron. Voilà son principe. Et jamais elle ne s'en est départie. Chaque marchande de Mouron a son quartier. Et pour rien au monde, elle ne voudrait empiéter sur le quartier d'une autre. À 6h du matin en été, à 8h en hiver, la tournée commence. À 10h, tout est fini. infini. Que devient la marchande de Mouron jusqu'à minuit? Tantôt, elle met un mouchoir rouge autour de sa tête et vend des gâteaux de Nanterre fabriqués rue aux Ours. Tantôt, un panier sous le bras, elle va offrant aux passants l'avenir renfermé dans une coquille de noix. C'est ainsi que la décrit l'ouvrage collectif « Paris gagne petit ». Et il existe une version enfantine de la marchande de Mouron, comme on peut le lire chez Liffré Beau dans « La vie de Paris ». De ma fenêtre, je vois passer tous les matins, descendant des hauteurs de Montmartre, deux petites filles de 9 à 10 ans chargées chacune d'une hotte plus grosse qu'elle et d'un grand panier passé à leurs bras. « Mourons pour les petits oiseaux !» crient leurs petites voix aigrelettes qui vous percent les oreilles à travers le tapage de la rue. La consommation du mouron est énorme dans Paris. Dans certains quartiers populeux, chaque famille a ses serins auxquels il faut, tous les matins, la ration accoutumée. Aussi, ce petit commerce prospère. Ce n'est pas à dire pour cela que les petites marchandes de Mouron fassent fortune. Un sous la botte, quel que soit le bénéfice, il faut du temps pour atteindre ce résultat. C'est un des petits métiers qui rapportait le moins. Un autre métier tendait à disparaître, c'est celui de tondeur de chiens. Regardez Bisson et sa femme qui travaillent sur le trottoir du Pont-Neuf et qui va en ville. Bisson et sa femme tondent les chiens, une industrie qui s'en va. Bisson et sa femme est obligé de se livrer pour vivre à mille autres professions libérales, telles que celles de commissionnaire et de décrotteur. Il vend la toison de ses caniches à certains marchands de laine à Matelas et la peau de ses chats à des marchands de peau de lapin qui les revendent à quelques fabricants marrons de fourrure de martre ou de renard de Russie. Écrit Delors dans l'ouvrage collectif « Paris gagne petit ». Et ce n'est pas le chansonnier et journaliste Élie Frébeau qui le contredirait. L'antique tondeuse de chiens du Pont-Neuf, celle qui va en ville, se fait rare. Encore une industrie en décadence. Avant de quitter le tondeur de chiens, je voudrais vous lire un texte dans « Paris qui crie ». Justement sur ce métier en voie de disparition. Jadis, le Pont-Neuf était le quartier général des tondeurs. Il possédait une boîte mystérieuse sur laquelle se dressait à angle droit une planchette avec peinture représentant un caniche à côtelettes et un minet au repos. On lisait au-dessous « Monsieur Gibaud tond les chiens, coupe les chats, et sa femme aussi, et va en ville. » Ni chien ni chat ne passait sans trembler près de ce pont des soupirs. En effet, que de queues, que d'oreilles sont tombées en cet endroit maudit. Maintenant, les tondeurs sont devenus des industriels. Ils n'ont plus la boîte, ils ne travaillent guère sur le Pont-Neuf. Ils l'ont quitté et se sont répandus dans Paris. Quand on a besoin de leurs services, ils se rendent à domicile. Vous voyez arriver chez vous deux messieurs qui s'emparent doucement du patient, tirent d'un petit sac une tondeuse mécanique, des instruments spéciaux fort propres et prestement terminent l'opération en quelques minutes. Après quoi, ces messieurs se retirent avec convenance et sans bruit. C'est à peine si les animaux ont le temps de s'apercevoir de leur transformation. Parmi ces gagnes petits, un personnage assez cocasse, le marchand de cannes à deux sous. Ce marchand de cannes à deux sous apparaît déjà en 1799 sous la plume de Charles Henrion, un auteur dramatique de la fin du XVIIIe siècle. Dans son livre, encore un tableau de Paris, voici ce qu'il écrit. « Battez vos femmes, rossez vos habits pour un sol !» Voilà le cri de ces hommes qui vendent des joncs qui sont si commodes pour épousseter nos vêtements. « Battez vos femmes !» Quel précepte ! Et pourquoi les battre ? En deviendrait-elle meilleure ? C'est cependant la morale de Cadet-Roussel. On peut battre sa femme, mais non pas l'assommer. Battez vos femmes ! Mais quel conseil ce savoyard nous donne-t-il là ? Je n'en puis pas revenir. Peut-être qu'en le répétant mille et mille fois par jour, il en a suggéré l'envie à quelques gros butors qui n'y pensaient pas. Ce cri de « battez vos femmes et vos habits pour deux sous » était entré dans la tradition. Et le père Gilbert, un marchand de cannes célèbre, le cria sous le règne de Napoléon III. Voici ce qui lui advint. Toutes les marchandes du quartier se sont aussitôt réunies autour de lui et ont fait pleuvoir sur sa tête une grêle de coups accompagnée de menaces et de cris de vengeance. « Ah, battez vos femmes !» s'écriaient toutes les femmes des environs déchaînées contre le malheureux marchand. « Pandards, monstres, scélérats !» etc. etc. L'infortuné marchand aurait été infailliblement mis en morceaux sans l'intervention des agents municipaux. Depuis cette scène, les marchands de cannes se sont contentés de convier les hommes à battre leurs habits. Ils se sont bien gardés d'étendre cette invitation jusqu'à la plus belle moitié du genre humain. Ce petit texte se trouve dans Paris gagne petit. Mais un autre écrivain s'est intéressé à ce personnage, c'est Victor Fournel. Deux fois dans ses ouvrages, il s'est intéressé à lui. D'abord, en tant que Père Gilbert, dans Les Cris de Paris. Voici ce qu'il dit. « Cris du Père Gilbert n'était pas sans malice, on le voit, dit M. Casseneur. Les dames de la halle le trouvèrent séditieux. Elles appréhendèrent au corps le mauvais plaisant et lui administrèrent une de ces corrections qu'on ménage fort peu aux mousses sur les bâtiments de l'État. Le Père Gilbert, à ce qu'il paraît, n'avait pas tenu compte de la leçon et, devenu marchand de coco, il lui arrivait souvent, fâcheux empire de l'habitude, au lieu de « à la fraîche, qui veut boire ?» de crier « Battez vos femmes !» Et dans ce qu'on voit dans les rues de Paris, il écrit « Aimez-vous les marchands de canne ? Il y en a partout. Voilà 3 ans que j'en rencontre 20 fois par jour sur mon chemin. C'est un brave homme, somnolent et familier. Il vous aborde d'un air placide et met sous vos yeux sans maudire le jonc qu'il tient à la main. Si vous détournez la tête, il vous lance entre ses dents une injure dont personne n'a jamais eu le courage de se mettre en colère, tant il paraît convaincu que c'est un cas pendable de ne lui point acheter. Que si vous le laissez prendre possession de votre personne, c'est fait de vous. Il ne vous lâchera pas. Dès la première minute, il vous parle d'un ton de camaraderie, vous raconte de petites historiettes dont il rit d'un air satisfait, vous adresse des confidences intimes sur sa vente de la veille, sur ses projets d'avenir, sur une personne qui passe, car il a la prétention de connaître tout le quartier. Quittez-le et en vous retournant 30 pas plus loin, vous le verrez encore à la même place, yeux fixes, bouche béante. Il soulève sa canne d'un mouvement machinal, d'un geste suprême, et s'en va flâner d'un autre côté après vous avoir flegmatiquement apostrophé d'un gros mot. Un autre marchand ambulant est célèbre pour son accoutrement. C'est le marchand de plumeaux. Hiriart, un journaliste, écrivain et dessinateur, a laissé un témoignage extraordinaire sur Paris, sur le Maroc, sur l'Italie et sur les petits métiers. Et il fait de ce marchand de plumeaux un véritable tableau. Il descend le matin des hauteurs de Charonne, lentement, comme un colimaçon, disparaissant tout entier sous son singulier harnachement. Il est presque impotent. Ses jambes sont enveloppées de vieux chiffons de laine, retenus par des lanières naïvement entrelacées, comme les cordons d'un cothurne. Sur sa poitrine s'étalent, disposées à la façon des chlamydes, des cuillères à peau, artistement étagées, fixées par un piton. Des gobelets d'étain, des tire-bouchons, des vrilles, des instruments de forme bizarre, et jusqu'à des balais en chien-dent forment sur sa poitrine le plus grotesque assemblage. Sur le ventre, juste à l'endroit où le soldat au feu porte la cartouchière, Monsieur Plumet, c'est ainsi qu'on le surnomme, attache une de ces salières en bois fumé où les ménagères mettent leurs gros sel de cuisine. Monsieur Plumet y enfouit son tabac, sa pipe, et quelle pipe, son argent et sa chic. Je ne suis qu'un historien. Je plains la cuisinière qui achètera cette cassolette. Les plumeaux attachés à l'épaule forment l'éventail et se balancent à chaque pas que fait Monsieur Plumet. La main gauche s'appuie sur des béquilles monumentales. La droite brandit un de ces balais d'une exécution naïve qui servent à épousseter les panneaux. L'aspect que présente Monsieur Plumet, vu de dos, je renonce à le décrire. Vous connaissez ces éventails à côtelettes formés de palettes d'un bois léger, réunis entre elles par un lien d'osier et dont on se sert pour activer la combustion du charbon? Notre type les fixe sur une chape qui s'attache à l'épaule. Ils s'arrondissent autour de sa tête, coiffés d'un chapeau. Est-ce bien encore un chapeau? Des balais de toutes dimensions, de toutes formes et de tout usage complètent le harnachement. Voilà pour le physique. Une autre figure devait aussi attirer l'œil, celle de la marchande d'éponges, dont Frébaud dans Les Industriels du Macadam fait ce portrait. De la Bastille à la Madeleine, la marchande d'éponges promène sa pacotille roulée en collier à son cou. Pauvre petite, pourquoi ne fait-il pas toujours beau? L'eau du ciel qui fait gonfler ses éponges vient encore trop souvent augmenter son fardeau et sa misère. Et puis, quand il pleut, les passants ne s'arrêtent guère pour acheter des éponges. Un autre personnage animait les rues parisiennes, c'était le marchand de pain d'épices. Hiriart, encore une fois, en fait un très joli portrait. « Parmi les nombreux marchands étalagistes, celui-ci mérite d'être particulièrement cité par son originalité et la singulière réclame qu'il avait imaginée. C'était un brave homme de marchand, toujours gai, riant et chantant. Un de ces visages heureux qui révèlent une conscience calme. J'ai dit « c'était », car depuis quelques années, je ne le revois plus. Il hantait les quartiers de la montagne Sainte-Geneviève, la place Maubert et le quai des écoles, et restait fidèle à ses parages. Il installait une table proprement recouverte de serviettes et empilait avec symétrie ses pavés de pain d'épices si chers aux Bruxellois. Pour ne pas froisser complètement le sentiment national, il avait bien par-ci par-là quelques bons hommes d'origine française, mais constatons que le pavé dominait. Sa table était haute sur ses pieds, et il était lui-même juché sur un escabeau afin de dominer la foule qu'il comptait bien attirer autour de sa bouche. Un marchand qui dispose sur sa table des carrés de pain d'épices de toute forme, cela n'a rien de bien imprévu. Mais quand le même industriel s'arme d'une espèce de canne à pêche et suspend à l'extrémité du fil un morceau de pain d'épices d'une grosseur raisonnable qu'il fait se balancer dans les airs, les populations commencent à s'émouvoir. Et en fait, ce marchand de pain d'épices amusait les enfants en leur demandant d'attraper avec leur bouche seulement le petit morceau de pain d'épices. Vous imaginez bien que cela devait donner une certaine animation à ces quartiers. Un petit intermède avec la chanson « Le Rémouleur » chantée par André Claveau.
C'est le rémouleur qui passe en sifflotant. Les gamins sortant de classe le suivent l'air content. En poussant sa voiturette sous le ciel du midi, il fait tinter sa clochette tout comme au paradis. Aiguisé vos ciseaux, repassez vos couteaux, sur ma meule ils brilleront bientôt. Aiguisez vos couteaux, plus j'aiguise, plus le ciel est beau. On dit que sa clochette a fait la nique à bien des maris. On dit que plus d'une en cachette de sa fenêtre lui sourit. On dit même, en grand mystère, que la fille du notaire. Les gens disent ce qu'ils veulent, mais lui ne s'en fait pas. Tant que tournera sa meule, la terre tournera. Au soleil sa meule brille, et chaque goutte d'eau danse dans les yeux des filles, mieux qu'un joli cadeau. Aiguisez vos ciseaux, repassez vos couteaux, avec du vieux je fais du nouveau. Aiguisez vos couteaux, plus j'aiguise, plus le ciel est beau. En poussant sa voiturette, il est resté garçon. Oh, ce n'est pas ce qui l'inquiète pour finir sa chanson. Trop de brunes, trop de blondes ont dormi sur son cœur pour qu'un jour cesse la ronde des petits rémouleurs. Aiguisez vos ciseaux, repassez vos couteaux. Je repasse, passerai bientôt. Aiguisez vos couteaux. Plus j'aiguise, plus le ciel est beau.
Assez extraordinaire aussi la marchande de grillades, marchande plus sédentaire comme le marchand de pain d'épices. On l'appelait aussi la marchande de grillades ou la marchande de fritures. Elle pouvait être ambulante comme celle que décrit Jules Janin dans son texte « Les petits métiers », texte que je vous ai lu au début de cette émission. En voici le portrait écrit en 1848 par Joseph Mainzer, un compositeur allemand de la première moitié du 19e siècle. Marchande des rues, elle n'a d'autre cri que le frémissement de sa poêle, d'autre enseigne que le nuage de vapeur épaisse qui lui tient lieu d'auréole. Elle n'attire le chaland ni par la grâce de son sourire, ni par la coquetterie de sa mise. Ses cheveux gris, dont un mouchoir trop étroit laisse échapper les mèches roides et inégales, ses yeux éraillés, ses mains osseuses et noires, son jupon, assemblage d'étoffes et de couleurs discordantes, ses larges pieds chaussés de sabots ou de souliers découpés dans une vieille paire de bottes, composent un de ces ensembles grotesques que nos peintres parviennent à rendre si réjouissants dans leurs caricatures. Elle porte un éventaire sur lequel d'un côté s'élève une pyramide de morceaux de pain, de l'autre figure un réchaud surmonté d'une poêle où le feu grésille, un pêle-mêle de saucisses, de boudins, de côtelettes de porc et de tranches de lard. Alléchés par le fumet de ce ragoût qu'appète leur estomac en souffrance, on voit approcher tour à tour le maçon, le manœuvre, le terrassier qui n'ont pu trouver à louer leur journée et le titi de Paris qui vit heureux s'il a de quoi payer son restaurant en plein vent et sa place d'amphithéâtre à la gaieté. Chacun de ces consommateurs, en échange des deux ou trois gros sous qui se prélassent à l'aise dans ses vastes poches, se saisit d'un morceau de pain sur lequel il étale avec complaisance soit le boudin, soit la côtelette, et va s'asseoir sur la borne ou sur le parapet pour se livrer à l'importante opération de la mastication avec autant de recueillement que le ferait un gastronome assis aux tables de Véfour. Vous rencontrerez quelquefois de ces marchandes de friture qui sont établies à poste fixe dans les marchés ou aux barrières. Celles-ci, outre la poêle classique, ont un gril sur lequel noircissent 4 ou 5 petits poissons d'une odeur plus que douteuse. Vous les verrez encore aux Champs-Élysées quand vient l'anniversaire des journées de juillet. À côté de l'espèce que je viens de décrire, il en est une autre que l'on trouve partout et dont la clientèle est infiniment plus nombreuse. Je veux parler de la marchande de pommes de terre frites. Celle-ci est établie. Elle a boutique. Mais quelle boutique ! Un recoin de porte, quelquefois. Le plus souvent, une petite échoppe. 3 pieds carrés, enfin, dans lesquels il faut trouver la place. Du fourneau, du bois, du pot de graisse, des pommes de terre et de la marchande. Je dois dire aussi que comparée à la débitante de boudins et de saucisses, la marchande de pommes de terre frites est en progrès. Il y a dans son modeste costume quelque chose de moins déguenillé. Sa physionomie est plus avenante, sa voix des inflexions moins rauques. Cela tient à ce que ses clients n'appartiennent pas uniquement à la classe malheureuse. La petite bourgeoise a recours à son ministère dans plus d'une occasion pour compléter un dîner écourté ou se procurer l'hiver au coin du feu la jouissance d'une frugale collation. Et dans ce frottement accidentel avec une classe supérieure, elle n'a pu manquer d'acquérir un certain degré de civilisation et de politesse. Son existence offre du reste la plus constante uniformité. Un texte donc sans complaisance, sans cette émotion que l'on retrouve chez d'autres auteurs. Il faut dire que Mainzer n'était pas connu pour sa légèreté. Mais aujourd'hui, les bien-pensants qui font les lois à Bruxelles empêcheraient ces ventes pas assez d'hygiène à leur goût. Eh bien, j'ai eu la chance de connaître dans mon enfance ces marchandes de frites qui existaient encore aux Halles. Je parle des Halles du ventre de Paris, n'est-ce pas ? Maman m'achetait un cornet de frites et c'était le bonheur. Je crois n'en avoir jamais mangé d'aussi bonne. Et croyez-moi, je n'étais pas malade. Mais je ne peux vous laisser sur cette vision si triste de Mainzer. Aussi, voici un texte de Maxime Ducamp, injustement oublié, qui écrivait entre 1869 et 1875 cet incroyable document sur Paris. Paris, ses organes, ses fonctions, sa vie. L'on y trouve absolument tout sur Paris, avec les chiffres, l'histoire, les anecdotes, bref. C'est un bijou. Je sais bien que Ducamp fut ignoble par rapport aux communards, mais ce n'est pas une raison pour se priver de ce témoignage. Voici donc ce qu'il écrit sur ces fameux marchands de friture. Il est une autre catégorie de marchands ambulants qui, il y a peu d'années encore, parcouraient Paris qu'ils remplissaient de leurs clameurs et que maintenant on ne retrouve plus. C'étaient les marchands de friture qui s'en allaient vendant les pommes de terre, les saucissons, les beignets qu'ils faisaient frire tout en continuant à marcher sur des poêles grésillantes que soutenait leur éventaire muni d'un réchaud. Voulant déblayer la voie publique que l'accroissement de la population encombre chaque jour davantage, malgré les nouveaux débauchés qu'on lui crée, l'autorité a relégué ses cuisiniers primitifs dans de petites boutiques où, tant bien que mal, ils persistent dans leur commerce. Le Pont-Neuf était autrefois le rendez-vous de ces fortes commères qui transportaient leurs marchandises brûlantes au milieu des passants. Au siècle dernier, les cuisines en plein vent abondaient dans Paris. Voyez, dit Mercier, dans son nouveau Paris, le long des bâtiments du Louvre, du côté de la Seine, ces frêles échoppes dont les toits sont à jour. C'est là que de laborieux Hercules, que beaucoup d'hommes de peine, viennent calmer leur faim pour un prix raisonnable. Des cordons de harengs filés qui sèchent au soleil attendent le grill. C'est l'affaire d'un clin d'œil. Viande, boudin, œufs, merluches, tout se trouve mêlé dans le même plat. La marmite bout devant la boutique entre deux pierres et est bientôt épuisée. C'est là une industrie disparue. Que diraient-ils aujourd'hui tous ces auteurs qui regrettaient la disparition de ces marchands ambulants qui animaient les rues? Que penseraient-ils de ces supermarchés dans lesquels sont vendus ce qu'ils trouvaient au coin des rues? En revanche, il reconnaîtrait les marchands ambulants de statuettes et bibelots divers qui nous proposent des tours Eiffel, des Sacré-Cœurs, des statuettes, enfin toutes sortes de babioles. En effet, ces marchands de statuettes ont pour ancêtre les Italiens qui arrivaient en 1858 à Paris avec le printemps et repartaient à l'automne, selon Victor Fournel qui écrit en 1858 ce que l'on voit dans les rues de Paris. Il y a toute une légion de parasites étrangers, lesquels, au rebours des hirondelles, s'en viennent, pour la plupart, avec les neiges et s'en vont avec les roses. Tels sont ces marchands de statuettes en plâtre qui répandent et entretiennent dans le peuple le sentiment des arts. Ils vendent aux portières, aux ouvriers, aux petits commerçants, des Christes et des Vierges, des Jeanne d'Arc, d'après la princesse Marie, des odalisques, des guerriers musulmans appuyés sur leur cimetière, des épreuves dans les prix doux, de la Vénus de Milo ou des plus beaux ouvrages de Pradier. Cette race se compose surtout de piémontais indolents, grands et gros gaillards qui doivent être proches parents des Lazzaroni, à en juger par l'abandon caractéristique avec lequel il savoure les douceurs du farniente. Ne soyez pas choqués par la tournure du texte. Je le rappelle, il fut écrit en 1858. 32 ans plus tard, les marchands de statuettes existaient toujours. Mais la vision en était un peu différente. Signore, monsieur, achetez ma Vénus. Et il vous offre avec un détachement égal à celui des bras de son modèle une réduction en plâtre odieusement bronzée de la Vénus de Milo ou cet éternel enfant sans style en pseudo-terre-cuite tenant une corbeille au-dessus de sa tête. Le marchand de moulage est le plus souvent piémontais ou calabrais. Mais hâtons-nous de le dire, son commerce n'est pas très lucratif. Aussi joint-il souvent à ce petit métier celui de modèle dans les académies. Ne vous étonnez donc pas trop qu'il présente sa marchandise avec des effets de torse. Jadis, il la portait au moyen d'une planchette sur l'épaule et l'étalait sur les parapets des ponts. Maintenant, c'est dans un panier qu'il la colporte, à la terrasse des cafés, entre un ramasseur de bouts de cigares et une bouquetière précoce. Avec ses yeux noirs et ses cheveux frisés, rappelant de loin les types classiques de sa belle patrie, il est un de ces cosmopolites encombrant nos boulevards dont le métier se transforme au besoin. Ce texte est écrit en 1890 dans Paris qui crie, un ouvrage collectif. Mais en 1905, Emmanuel Benezit ne se fait pas d'illusions sur la façon dont sont traités ces marchands et particulièrement ces enfants. Puisque nous parlons de ces petits marchands de figurines, arrêtons-nous une minute à ces pauvres oiselets de la rue. Qu'ils soient exploités par leurs parents ou par des patrons à qui on les a loués, ces malheureux enfants vivent dans la condition de véritables esclaves. Chaque jour, la somme qu'ils doivent rapporter est fixée par leur exploiteur, et faute de l'avoir trouvée, ils sont cruellement battus. Hâtons-nous de dire que ces procédés honteux deviennent de plus en plus rares. Bien souvent, faute de plainte, il est difficile à la justice de sévir. Mais quand un de ces tortionnaires d'enfants tombe entre ses mains, il n'est pas ménagé. La prison suivie d'exploitation l'expulsion, la déchéance paternelle quand il s'agit des parents sont des mesures fréquemment appliquées et qui donnent à réfléchir à se tenter de s'engager dans cette voie cruelle. Le petit marchand de figurines, si l'on ne s'arrête qu'à son extérieur pittoresque et à sa façon de vendre, est fort amusant. « Achetez-moi cette statue, monsieur, » demande-t-il dans son baragouin semi-français, semi-italien. « 10 fois vous refusez. » Mais le petit bonhomme a deviné la pitié qu'il vous inspire. « Il n'y a pas de danger qu'il s'en aille. »« 3 francs, ma belle statue, monsieur. »« C'est pas cher, monsieur. »« Allons, prenez-la pour 50 sous. »« Voyez, monsieur, c'est un chef-d'œuvre. »« Tenez, je vous la laisse pour 2 francs. »« Achetez-la-moi, monsieur. » À bout de patience, agacé, lui ayant dit 20 fois qu'il vous laisse tranquille, offrez-vous pour avoir la paix une pièce de 10 sous. Le petit marchand se hâte d'accepter. Lui eussiez-vous offert 5 sous, qu'il eût accepté de même. La figurine dont vous devenez propriétaire représente une poignée de plâtre, la main-d'œuvre étant presque nulle, puisque ce sont en majeure partie les infortunés petits marchands qui en ont la charge. Je termine cette émission sur ces textes qui nous renvoient de façon si cruelle à notre époque. Surtout, n'hésitez pas à venir sur le blog chroniquesdunsiècle.com pour commenter, questionner ou même vous insurger. Bonne journée et à bientôt sur Radio Boomerang 89.7 FM. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier. Sur Radio Boomerang 89.7 FM.